Alors, je vais prendre un texte dans Deutéronome, le chapitre 23, à partir du verset 22 jusqu'au 24, qui concerne les vœux. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres en te conformant aux vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Donc il est question ici de faire un vœu volontaire à l'Éternel et donc de ne pas tarder à l'accomplir. Alors on peut définir un vœu comme une promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur, une délivrance ou en remerciement d'une prière exaucée. Dans l'Antiquité, par le vœu, on s'engageait à offrir en sacrifice quelque chose, voire quelqu'un, ou bien à accomplir un acte de renoncement à soi-même, plus ou moins pénible ou douloureux. Et ça dans le but d'être agréable à la divinité. D'autres fois, on se vouait soi-même tout entier à son service. Alors on a quelques exemples dans la Bible de vœux que des personnes ont fait. On a notamment par exemple celui de Jacob. Alors qu'il se rend en Mésopotamie, Jacob va s'arrêter à Luz, qu'il baptisera Bethel, pour y passer la nuit. Et donc c'est à ce moment que Jacob va faire le rêve de l'échelle où il voit les anges monter et descendre par cette échelle. Et à la fin de ce vœu, à la fin de ce rêve, Jacob en se réveillant va dire: Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc voilà, on le trouve ce vœu dans le vœu de Jacob, dans Genèse 28, au verset 20 à 22. Après, on a aussi le vœu de Anne, une femme stérile, qu'on trouve dans 1 Samuel 1, au verset 11. Donc toutes les années, elle allait avec Elkana, son mari, au sanctuaire de Silo, et elle était stérile. Et donc elle fait ce vœu à l'Éternel en lui disant: Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc un vœu qui dépend d'une situation, donc si l'Éternel accorde quelque chose, du coup, voilà, ils font le vœu qu'ils donneront quelque chose à l'Éternel. Et puis il y a un autre, il y en a d'autres bien sûr, mais il y en a un autre un peu plus frappant, c'est le vœu de Jephté. Le vœu de Jephté qu'on trouve dans Juges 11, du verset 29 à 36. Vœux et victoire de Jephté. L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephté. Il traversa Galaad et Manassé, puis il passa à Mitzpé de Galaad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephté fit un vœu à l'Éternel. Il dit: si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephté marcha contre les Ammonites, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur affligea une très grande défaite, depuis Aroer jusque Minit, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Abel-Keramim, et les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Jephté retourna chez lui à Mitzpa, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant, il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux revenir en arrière. » Elle lui dit: « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis des Ammonites. » Donc un vœu, c'est une promesse, c'est un serment qui engage la personne qui le fait. Alors la Bible, on le voit, elle n'est pas contre les vœux, mais elle nous met en garde contre les vœux inconsidérés qu'on pourrait faire. Comme celui de Jephté qui a du coup sacrifié sa fille. Ecclésiaste 5, versets 1 à 6 nous dit « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Et dans Nombre 30, versets 1 à 3, on lit aussi « Moïse dit aux Israélites tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse dit aux chefs des tribus des Israélites, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. » Donc ces versets, ils mettent en avant l'important du serment qui nous lie par un engagement. Il est donc important de réfléchir aux vœux que nous faisons en mesurant l'importance et ce à quoi cela donc va nous engager. Dans l'Antiquité, on ne faisait pas de contrat écrit et la parole d'une personne, elle l'a liée autant qu'une signature. Et pour en rendre plus solennel les faits, les engagements, eh bien, on faisait une offrande pour sceller un peu ce vœu, ce serment. Alors la loi, elle ne contraignait personne à faire un vœu, mais une fois prononcé, il devait être respecté. Ne pas tenir parole, c'était risquer une rupture de la confiance et de la relation. La confiance, elle est aujourd'hui encore la base de nos relations, avec Dieu et avec les autres, et une promesse non tenue est tout aussi dommageable à notre époque qu'à celle de Moïse. Est-ce que nous sommes connus comme des hommes et des femmes de parole? Alors, est-ce que certains d'entre vous ont vu le dernier Disney, le dernier dessin animé Disney, Wish? Oui? Alors, nous, on a été le voir au cinéma avec les enfants, et j'ai apprécié les différentes réflexions qu'il a pu susciter en moi. Et je trouve toujours marrant que, bon bien sûr c'est parce que c'est un centre d'intérêt que j'ai, Dieu, mais je trouve toujours marrant que Dieu utilise toutes nos expériences pour nous parler. Et en fait, on arrive à faire des rapprochements, même du coup avec un dessin animé, tout ça. Mais voilà, donc sans vouloir trop vous raconter tout le dessin animé, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Asha et qui vit donc à Rosas, un royaume fantastique où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Mais pour être réalisés, ces souhaits, ils doivent d'abord être confiés à l'âge de 18 ans à Magnifico, un roi, le roi de Rosas, et donc qui exauce le vœu d'une seule personne par mois. Alors qu'elle souhaite entrer à son service, Asha découvre un secret bien gardé qui va la plonger dans un moment de désespoir. Face à ce moment de désespoir, elle va adresser alors un vœu sincère aux étoiles, qui enverront une petite boule d'énergie prénommée Star, ni plus ni moins une étoile, et donc pour aider Asha à affronter le plus redoutable des ennemis, le roi Magnifico, et donc prouver que le souhait d'une personne déterminée peut réellement produire des miracles. Alors, dans ce dessin animé, il est donc question de vœux, de souhaits, puisque la traduction de l'anglais « wish » signifie ni plus ni moins que « souhait ». Wish, c'est un souhait, du coup. Alors, des souhaits, nous en faisons tous. Mais chacun a en soi sûrement un vœu, un désir, une ambition, un espoir qu'il aimerait voir se réaliser. Quelque chose de l'ordre du leitmotiv, une sorte de fil conducteur qui nous dirige, nous conduit et influence nos choix, censé, du coup, nous permettre d'atteindre ce désir, le désir de notre cœur. Alors, de coutume, il est souvent question de faire un vœu. Vous savez, celui que l'on fait après avoir vu une étoile filante, justement, quand on trouve un trèfle à quatre feuilles, en se giflant la bonne joue lorsque l'on a un cil dessus. Et puis, dans ces situations, on entend souvent dire qu'il faut faire un vœu, comme si notre vœu était alors confié à quelque chose ou à quelqu'un, avec l'espoir qu'il se concrétise. Pour les superstitieux, d'ailleurs, le vœu ne se dit pas à haute voix, de peur qu'il ne puisse se réaliser, ou peut-être par crainte qu'il ne soit dérobé par quelqu'un d'autre. Quel vœu avez-vous déjà pu bien faire? Et si vous aviez un vœu à faire maintenant, lequel serait-il? Alors attention, prenez votre temps, car ce vœu doit être bien choisi, mûrement réfléchi, puisque vous n'en avez qu'un. Trouver la lanterne d'un génie vous permettra certainement d'obtenir jusqu'à 3 vœux, d'après Aladdin. Mais après? Et pourquoi donc se limiter à 3 vœux? Puisque les souhaits changent avec les souhaits changent avec le temps. Ce qui nous paraissait important hier ne l'est certainement plus aujourd'hui. Et demain amènera sûrement de nouveaux souhaits. Je me rends compte qu'il faut faire attention parce que ce mot « vœu » peut vite être détourné. D'une promesse faite à Dieu pour le remercier, pour obtenir sa faveur ou une délivrance, je me rends compte que le vœu peut vite se transformer en une envie à assouvir, une demande personnelle, un caprice. En y réfléchissant bien, dans la vie d'un chrétien, n'y a-t-il pas un vœu particulier que nous faisons tous ? En écrivant ce partage, j'essayais de me souvenir des vœux que j'avais pu faire à l'Éternel. Pour essayer de me rappeler si j'avais pas oublié certains. Je suis quelqu'un qui est très oublieux, ma femme rigole. J'en ai sûrement oublié beaucoup. Mais je me rappelle d'un vœu que je faisais régulièrement dans ma jeunesse et que je souhaite toujours aujourd'hui. Alors que j'allais me coucher, une fois allongé dans mon lit, mes derniers mots, mes dernières pensées s'adressaient à Dieu en lui demandant déjà de pardonner le pauvre pécheur que je suis, de me pardonner de ne pas toujours bien agir, mais Seigneur, mon désir, c'est que ma vie te soit consacrée. En gros, j'avais vraiment cette prière de donner ma vie au Seigneur et que vraiment elle puisse être utile dans les mains de Dieu. Alors je me rappelle faire cette prière profonde avec le désir de servir le Seigneur et donc de pouvoir être utile entre ses mains. Et Dieu est fidèle, il a entendu ma prière, mon souhait, puisque aujourd'hui encore je suis à son service. Et ce souhait, Dieu l'a gardé jusqu'à son accomplissement. Puisque ce souhait, en fait, je le faisais même avant d'être converti. L'autre jour, alors que j'entendais le vent dans les arbres et le probable début d'une tempête, je me rappelais que Dieu pouvait revenir à n'importe quel moment. Personnellement, les orages et les épisodes météorologiques puissants comme ça, c'est pour moi le symbole d'une manifestation de la puissance de Dieu, et ça me fait toujours penser à son retour, où un jour tout œil le verra. Dans Apocalypse 1, verset 7, on dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. » Dans 2 Pierre 3, 10 à 13, on lit aussi « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Alors il y a ici une notion d'urgence, et que, comme on l'a vu, en fait, il ne faut pas tarder à accomplir nos vœux. Parce que je suppose que même vous, si vous réfléchissez bien, il y a sûrement des vœux, des souhaits que vous avez faits à Dieu, que vous n'avez sûrement peut-être pas encore accomplis, ou que vous n'avez jamais eu l'occasion d'accomplir. Donc mieux vaut pour vous ne pas faire un vœu, plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Alors en matière de vœux, je peux dire qu'il vaut mieux pas procrastiner, autrement dit, remettre à plus tard, repousser, reporter, attendre la dernière minute, puisqu'un jour, nous aurons à rendre des comptes. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Matthieu 12, au verset 36. En lisant cela, ça me faisait penser un peu au nombre de caractères qu'on a le droit des fois dans certains formulaires. Vous savez, vous avez le droit d'un un certain nombre de mots ou de caractères. Et donc, il faut bien réfléchir aux mots qu'on va mettre à l'intérieur, parce que des fois, pour exprimer ce qu'on doit, eh ben, on n'a pas assez de caractères, donc faut reprendre et tout. Et donc, je me disais qu'il fallait réfléchir du coup et condenser les mots sans superflu pour exprimer ce qu'on avait à dire. Et quand je réfléchis à un jour nous rendrons compte de toute parole inutile que nous aurons prononcée, je me suis dit que ma liste, elle devait déjà être bien remplie. Et heureusement qu'on vit sous la grâce de Dieu et qu'il n'y a plus de condamnation du coup pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors en parlant de vœux, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces vœux que l'on formule, comme les vœux de mariage, les vœux scolaires à faire sur Parcoursup, les vœux de la nouvelle année, les vœux religieux. Et puis cela m'a fait penser aussi à autre chose, ça m'a fait penser au baptême. Dans le baptême, en fait, est-ce qu'il n'est pas question de faire un vœu à l'Éternel ? Une profession de foi, une déclaration publique ayant pour but de faire connaître ouvertement ses opinions, ses sentiments, ses intentions, son engagement devant Dieu. En fait, par le baptême, on décide de reconnaître publiquement notre désir d'obéir et de servir Dieu, de lui être consacré et ainsi de recevoir sa faveur, le salut de notre âme. Dans Deutéronome 10, versets 12 à 13, on lit « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ? Que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux. » 1 Pierre 3, versets 21 à 22 dit aussi « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. » C'est un peu ce vœu dont je vous parlais, donc le vœu qu'on fait tous quand on veut devenir chrétien et quand on donne notre vie à Christ. La semaine dernière, Damien nous partageait son envie de franchir un cap, de faire le pas qui le ferait avancer plus loin avec Dieu peut-être. Qu'est-ce qui nous manque pour le franchir ce cap, pour aller plus loin ? Nous avons tout pleinement en lui, comme nous dit le verset de Colossiens 2:10. Dans le dessin animé Wish, on s'aperçoit aussi qu'une fois confié, un vœu est en quelque sorte perdu. Bien pire, en donnant ce qui lui tient à cœur, la personne perd ce qui le motivait à avancer dans la vie. Je me suis demandé si nous, il ne nous arrivait pas parfois de confier nos vœux à d'autres personnes. D'autres personnes à qui, du coup, on confie la responsabilité ou la capacité de réaliser ce vœu à notre place. Alors, je pense à une star, à un patron, à des politiques en qui certains confient encore leur espoir. Et est-ce que, du coup, ce n'est pas ces personnes aussi à qui on relègue notre vœu, des fois ? Pourtant, ces gens pourraient-ils être fiables ? Est-ce qu'on confie avec raison le vœu à une autre personne ? À qui d'autre qu'à Dieu pourrions-nous confier un vœu ? Parce que lui seul est capable de réaliser nos désirs. Lui seul en est digne. D'autres vœux seront peut-être conservés pour un temps, un moment de la vie opportun, à un certain âge, lorsqu'un travail se présentera, lorsqu'on sera majeur, à la retraite, ou qu'on aura les moyens, le temps. Et c'est ainsi que certains de nos vœux seront perdus, oubliés, plus d'actualité ou peut-être encore désabusés. Voici ce que Jésus a dit sur le serment. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. » Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc un ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui et non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. On trouve ce passage dans Matthieu 5, versets 33 à 37. Alors, Ce passage sous-entend-il que nous ne devons pas faire de vœux ou de promesses, comme j'ai pu le lire ? Je ne crois pas, puisque, comme dit précédemment, le baptême est aussi un vœu qu'on fait à l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu d'alliance, d'engagement. Il y a d'ailleurs comme exemple le vœu du Naziréat, où une personne pouvait se consacrer au Seigneur. On voit d'ailleurs que Paul fait ce vœu dans le Nouveau Testament, dans Actes 18:18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Donc on voit que Paul fait aussi un vœu, et donc il fait le vœu de Naziréa. Donc c'est aussi lui qui a fait un vœu à l'Éternel. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, des hommes et des femmes capables de s'engager pour lui, prêts à lui consacrer leur vie. Ce vœu, vous l'avez peut-être déjà fait, vous, personnellement, et il faut continuer à l'honorer, car certains vœux nous engagent pour la vie. Si par contre, vous ne l'avez pas encore fait, je crois qu'il est temps pour vous, je crois qu'il est temps pour toi de t'engager. Aujourd'hui est ton aujourd'hui. Je vais prendre un passage assez long dans 2 Corinthiens pour conclure. 2 Corinthiens 6, jusqu'au verset, jusqu'au chapitre 7, 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à des enfants, comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne formez pas un attelage disparaître avec des accroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable ? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant ? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles ? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Dieu nous a fait des promesses, nous pouvons aussi lui faire une promesse en retour. Alors sans craindre que personne ne puisse se saisir du vœu que je vais faire, et je vais le dire même honnêtement avec plaisir, que d'autres puissent d'ailleurs s'en saisir, le vœu que je fais à voix haute ce matin, c'est que chacun de vous puisse accomplir le vœu qu'il a fait ou qu'il fera à l'Éternel. Soyez bénis.